Les maisons d'arrêt, c'est soit les personnes qui sont en attente de jugement, soit les courtes peines, normalement pas plus de 3 ans, mais des fois ça s'étend jusqu'à 5 ans. Et voilà, normalement c'est courte peine ou attente de jugement. Ensuite, on a les maisons centrales, il n'y en a que 6. C'est pour des lourdes peines et des gros cas, meurtre en récidive, etc. Bon, voilà. Donc il y en a très peu, il y en a que 6 en France, et ce sont des cas très très lourds. Et des grosses peines. Ensuite, il y a les centres de détention. Il y en a 25. Donc, les centres de détention, c'est tous ceux qui sont pas en maison d'arrêt ou en maison centrale. Donc, normalement, c'est que des condamnés, du coup. Il n'y a pas d'attente de jugement dans les centres de détention. Et, normalement, c'est les peines au-delà de 3 ans. Il y a les centres pénitentiaires. Alors les centres pénitentiaires, c'est des mélanges, c'est-à-dire qu'il va y avoir un centre de détention et une maison d'arrêt, ou un centre de détention et une maison centrale, ou maison d'arrêt, maison centrale. Il y a toujours un mélange de deux types de prisons au même endroit. Voilà. Et ça, il y en a 59 en France. Il y a les centres de semi-liberté, il y en a 9 en France. Ça, c'est les aménagements de peine. Donc ça va être les personnes qui sont en détention que la nuit et qui sortent travailler la journée, par exemple. Et ça va être aussi la gestion des bracelets électroniques, sachant qu'il y en a 14 000 en France. Alors c'est 14 700, je crois, aujourd'hui, mais les chiffres bougent tous les jours, de toute façon. Mais voilà, donc il y a à peu près 14 15 000 bracelets électroniques sur le territoire français. Et donc il y a les établissements pénitentiaires pour mineurs, donc c'est là où je suis moi, les EPM, et donc il y en a 6 en France, en sachant que Mes Yeux était le tout premier à ouvrir en juin 2007. Donc c'est entre guillemets assez récent comme type d'établissement. Alors quelques chiffres. Il y a environ 71 000 détenus en France. Il y a environ 170 000 personnes qui sont sous écrou, c'est-à-dire qui ont un numéro de détenu, mais qui ne sont pas forcément en prison via le bracelet électronique, par exemple, ou les aménagements de peine, comme les personnes qui vont être incarcérées que la nuit, etc. Voilà. Donc ça fait 170 000 personnes. Alors vous voyez le petit bug qu'on a. On a 71 000 détenus pour 60 722 places opérationnelles dans les prisons, ce qui entraîne forcément de la surpopulation dans certaines prisons. Sachant que, en fait, il n'y a que dans les maisons d'arrêt qu'il y a de la surpopulation, puisque dans les centres de détention, il y a un numerus clausus. Donc, si la prison est conçue pour 150 personnes, on n'y met pas plus de 150 personnes. Ce qui fait qu'il y a un engorgement au niveau des maisons d'arrêt. C'est pour ça que des fois, on trouve des peines au-delà de 3 ans, parce que les gens attendent tout simplement d'avoir une place dans un centre de détention ou en maison centrale. Donc on a une surpopulation qui est à 138,9% dans les maisons d'arrêt en France. Ça c'est toutes maisons d'arrêt confondues. Et on a 4 établissements en France qui ont une densité de 200%. C'est-à-dire une prison pour 100 personnes, il y a 200 personnes dedans. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des cellules où des fois il y a 3, voire malheureusement dans certains cas 4 détenus dans une surface de 9 mètres carrés. Donc vous imaginez l'intimité qu'ils peuvent avoir. Et c'est à tous les niveaux, parce que, par exemple, tous leurs papiers, leur dossier de leur affaire en cours, ils ont nulle part pour ranger ça de façon discrète, on va dire. Donc il suffit qu'ils aient de l'eau tournée, il y a un code détenu qui vient fouiller dans les affaires, qui regarde, et toute la prison est au courant des affaires de tout le monde, en fait. Donc ça pose un véritable problème, quoi. Et donc, on a quand même 1850 détenus qui dorment sur des matelas directement au sol, parce qu'il n'y a pas de place, donc il n'y a même plus de lit, donc on met des matelas par terre, et ils dorment par terre sur des matelas. Et c'est en France. Et c'est aujourd'hui. Alors donc moi, j'interviens donc à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Mézieux. Moi, je suis aumônier à Mézieux depuis janvier 2008. Donc là, en fait, j'ai été nommé en 2007, mais la prison donc a ouvert en juin 2007, et le directeur, pendant les six premiers mois, il a eu beaucoup de mal à gérer, parce que c'était tout nouveau et personne ne savait comment il fallait gérer ce truc-là. Et il n'a pas voulu s'encombrer des aumôniers qui, pour lui, étaient une charge supplémentaire. J'ai discuté avec un des surveillants gradés qui était là au début, qui est encore là aujourd'hui, et qui m'a dit que c'était une erreur, qu'il y avait un réel besoin des aumôniers en détention, et que ça aurait été un bon moment pour qu'on soit là aussi à ce moment-là. Mais bon, voilà. Juste pour la petite anecdote, sur la première semaine d'ouverture de la prison, donc c'est des bâtiments, on verra après, des unités avec 10 cellules par unité, et donc il y a une cuisine par unité. Sur la première semaine, dans une des unités, les détenus ont détruit toute la cuisine et ils ont dû tout refaire. Donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas de nous sur ses épaules, parce qu'ils avaient déjà trop à gérer et que c'était compliqué, quoi. Donc voilà la prison où j'interviens. Donc ici, on a les portes d'entrée. Donc il y a la porte d'entrée piéton qui est là. Et ici, c'est la porte pour les véhicules, puisque les détenus vont arriver soit dans un camion pénitentiaire, soit dans une voiture de police. Et donc, elle va rentrer jusque dans la cour ici pour déposer le détenu. Ici, c'est les bureaux administratifs. Ici aussi. Et ici, vous avez les dortoirs pour les surveillants. Je crois qu'il y en a deux ou trois dortoirs pour les surveillants qui sont de garde et qui sont là la nuit. Voilà, donc ici, c'est la cour. Ensuite, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce qu'il y a au premier étage ici. Ici, il y a le quartier disciplinaire. Ici, c'est la grille d'entrée pour rentrer en détention. Comment ?
Merci.
Ici, au rez-de-chaussée, il y a le greffe. Donc c'est là où les détenus arrivent, déposent leurs affaires, on leur file leur pactage, il y a la fouille, on leur donne leur numéro d'écrou, etc. C'est un peu, entre guillemets, l'accueil des détenus. Tout ce bâtiment-là, c'est le pôle social. C'est-à-dire qu'il y a l'école, parce que comme c'est des mineurs et que jusqu'à 16 ans, l'école est obligatoire en France, ils ont des cours, donc il y a des salles de cours avec des profs qui viennent exprès pour ces élèves-là. Et puis, il y a aussi la bibliothèque et il y a une salle de culte qu'on n'utilise pas, mais il y a une salle de culte qui est à notre disposition si on le souhaite. Je l'ai utilisée une fois depuis que j'y suis. Ensuite, il y a les fameuses unités dont je vous parlais. Donc, c'est 10 cellules par unité, sauf la première ici, c'est l'unité fille. Et il n'y a que 5 cellules, dont une cellule qui est plus grande que les autres, au cas où il y aura une maman. Voilà. C'est encore jamais arrivé, mais il y a une cellule prévue pour une éventuelle maman. Voilà. Ensuite, ici, c'est l'unité 2, c'est les arrivants. Donc, en général, ils sont là pour à peu près une semaine avant qu'on les place ailleurs en détention. Avec le Covid et les histoires de quarantaine, il y en a qui passaient 3 semaines, 1 mois aux arrivants. Donc ça a posé un peu des problèmes aussi, parce que du coup, on s'est retrouvé un peu en surcharge. Donc il y a des détenus qui n'étaient pas dans les unités où ils devaient être. Mais chance pour nous, sur Lyon, il n'y a jamais eu 2 détenus par cellule, ce qui est le cas par exemple à l'EPM de Marseille. Ici, unité 3, unité 4, c'est tous les prévenus, les mandats de dépôt, etc. C'est donc des gens, des gamins qui sont là en détention, mais qui n'ont pas encore été jugés. Donc on est en attente de jugement, soit parce qu'on n'a pas toutes les pièces qu'il faut, soit on manque de preuves, soit la date a été fixée, mais le jugement n'a pas encore eu lieu. Donc ici, c'est les 2 unités. Pour les prévenus, et dans cette unité, je reparlerai de ça tout à l'heure, mais il y a un éducateur qui est chrétien Et donc, ça nous aide beaucoup, nous, les aumôniers, en tout cas les aumôniers chrétiens. Ici, bon, il n'y a pas besoin de vous dire que c'est un terrain de foot. Ici, c'est le gymnase et la salle de sport. Ici, c'est les unités 5 et 6, c'est des condamnés. Et ici, c'est l'unité 7, c'est on l'appelle aussi l'UPK, c'est l'unité de prise en charge aménagée. C'est pour des profils un peu fragiles qui pourraient être en danger s'ils étaient en détention avec les autres. Donc on les isole et on les met à part, et ils sont que 5 sur cette unité-là. Et il y en a qui font toute leur détention ici. Il y a un jeune qui a fait... il a été là 3 ou 4 ans, je crois, et il a passé toutes ses années ici. Ici, c'est une salle qui sert un peu tout, salle de spectacle, salle de réunion parfois aussi, salle d'atelier, enfin voilà, c'est un peu toutes les animations se font soit là. S'il y en a qui font partie de la chorale ciel et qui sont allés chanter à l'EPM, vous êtes allés chanter ici dans le gymnase. Voilà. Et puis ici, il y a le parking des salariés. Et ici, maintenant... Il y a un parking supplémentaire et il y a aussi la maison des familles. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si vous êtes une maman et que vous venez voir votre fils en détention et que vous êtes obligé de venir avec la petite sœur, bah, il y a un service qui s'occupe de gérer la petite sœur pendant que vous allez voir le grand frère. C'est pas du tout géré par l'administration pénitentiaire. Hein. C'est une association qui s'appelle le San Marco qui gère ça. Donc voilà un peu la visite de la prison. Et donc voilà à l'intérieur comment se présente une cellule. Alors ça a changé un tout petit peu, c'est au niveau des télévisions. Maintenant ils ont des écrans plats, donc ça s'est modernisé. Et du coup les écrans plats sont posés ici. Petite anecdote qui apporte rien, mais sur les télévisions, il y avait les écrans plats, ils ont la possibilité de changer le nom des chaînes dessus. Et il y a un des détenus qui a mis un nom d'alcool différent pour chaque chaîne de la télé. Donc, voilà. Donc juste pour que vous ayez une idée des profils. Juste pour prévenir aussi, vous risquez d'entendre des choses un peu choquantes ce matin. Mais je ne peux pas les occulter, ça fait partie de mon activité. Mais je voulais juste vous prévenir à l'avance. Donc voilà, donc ça c'est une cellule. Alors on ne voit pas, mais parce qu'elle est derrière nous, mais il y a aussi une salle de bain. Puisque dans les EPM, ils sont censés être un par cellule et avoir, entre guillemets, tout le confort du fait qu'ils sont mineurs. Donc ils ont un lit, un bureau, une télé, des toilettes et une salle de bain chacun. Donc ça, c'est la théorie et ça, c'est la vraie vie. Voilà. Donc on trouve de tout. On va trouver le nom de la cité où ils habitent, le nom du département... des fois, il y a des photos, ils mettent des photos de famille, mais c'est assez rare, ou un poster qu'ils ont récupéré dans le magazine de foot, ou des choses comme ça. Mais très peu, assez bizarrement, les jeunes décorent très peu leurs cellules par rapport aux adultes. Les adultes affichent beaucoup plus de choses, alors qu'ils sont 3 ou 4 des fois par cellule. Mais presque toutes les cellules ont au moins une photo de famille ou d'enfant. Mais ici, il y a quelques-uns qui ont leurs frères et sœurs en photo sur le mur, mais c'est assez rare. Mais par contre, voilà, ça sert de support pour écrire. Et puis, souvent, vous voyez les petits bâtons pour compter les jours. Ça, c'est pas un cliché, ça existe vraiment. Et ce qui a changé aussi, c'est au niveau des fenêtres. Donc, au début que j'y étais, il y avait effectivement ces barreaux-là. Maintenant, c'est des caillebotis. Et donc, des caillebotis, c'est comme des grilles métalliques. Voilà. Et tous les jours, alors avant, les surveillants passaient avec un bâton pour vérifier la solidité des barreaux. Et maintenant, ils font pareil, mais sur les caillebotis pour vérifier que... Parce que les caillebotis, donc c'est des grilles, il y a des parties des grilles qui ont été coupées. Hein. Ils arrivent à... Je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent toujours à magouiller un peu, même en détention, quoi. Donc l'objectif de l'EPM qui a été donc donné par Dominique Verbène, qui était ministre de la Justice en janvier 2005, c'est 2 ans avant qu'on ouvre le premier EPM à mes yeux, c'est un établissement à taille humaine offrant une prise en charge inédite des mineurs détenus permettant de mener des actions d'éducation en vue de la réinsertion et de la prévention de la récidive. Donc c'est la grosse différence avec les les autres prisons, c'est qu'il y a beaucoup plus de, on va dire, d'administration qui travaille ensemble dans le même établissement. On va voir ça un peu après. Donc, qui travaille à l'EPM? Bah, il y a l'administration pénitentiaire, ce sont les surveillants, et les appelez pas les gardiens. Si vous allez voir un surveillant que vous lui dites qu'il est gardien de prison, il vous reprendra, c'est sûr. Je l'ai appris à mes dépens, au début. Il y a la PJJ, c'est la protection judiciaire pour la jeunesse. Donc ça, c'est les éducateurs, et c'est la grande nouveauté à l'époque que les EPM ont ouvert, c'est qu'il y a des éducateurs qui sont là et qui travaillent à temps plein sur la prison. Donc il y a un éducateur par établissement en permanence la journée. Alors je ne sais pas exactement les horaires, ça doit être 7h, 20h ou quelque chose comme ça. Donc 7 jours sur 7, dans chaque unité, il y a un éducateur présent donc pour 10 détenus si l'unité est pleine. Et donc c'est la grande nouveauté, puisque dans les quartiers mineurs, dans les prisons pour adultes, il y a des éducateurs, mais qui interviennent temporairement. Ils ne sont pas là toute la journée, tous les jours. Donc c'est la grande nouveauté à l'EPM. Et il faut faire travailler ces deux administrations ensemble, et ce n'est pas du tout évident. Je vais vous donner un petit exemple. Une fois, j'ai eu la chance de pouvoir rester pour un repas avec les jeunes. Et le repas s'est fini. Et il y avait un gamin qui ne voulait pas mettre son assiette dans le lave-vaisselle, qui ne voulait pas débarrasser sa table. Et ben, le surveillant, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que tout se passe bien dans son unité, qu'on soit tranquille. Donc lui, il était prêt à débarrasser la table à la place du gamin, que l'affaire se règle vite, que tout le monde retourne en cellule et qu'on soit tranquille. Mais par contre, l'éducateur, lui, pour des raisons éducatives, évidemment, il tenait à ce que le gamin débarrasse son couvert et son assiette, quoi. Donc voilà, c'est juste pour illustrer que c'est pas si évident que ça de faire travailler ces deux administrations ensemble. Des fois, ça marche très bien. Il y a des couacs. Voilà. Et encore aujourd'hui. Hein, donc c'est pas si évident ça. C'est un beau projet sur le papier. La mise en œuvre est beaucoup plus compliquée. Voilà. Donc il y a aussi des profs qui interviennent, puisque ce sont des mineurs, ils doivent aller en cours. Donc il y a des cours du lundi au vendredi, et ils ont des vacances scolaires comme nous, par contre. Voilà. Il y a la psychologue, alors elle n'est pas là à temps plein, mais elle intervient régulièrement pour pouvoir rencontrer certains détenus. Et puis il y a les avocats, alors eux, ils viennent à l'EPM, ils ne travaillent pas vraiment à l'EPM, mais quand ils veulent rencontrer un détenu, bah, c'est à la prison. Par contre, ils doivent voir les détenus au parloir. Donc il y a des parloirs spéciaux avocats, qui est différent du parloir des familles, pour les visites des proches. Et donc les avocats interviennent régulièrement sur l'établissement. Voilà. Alors, qui vit à l'EPM, qui vit à la prison? Alors on va faire un petit exercice. Si tu as 18 ans ou moins et que tu penses que légalement tu as l'âge d'aller en prison, tu te lèves. Si tu as 18 ans ou moins et que tu penses que légalement, par rapport à la loi française, tu as l'âge d'aller en prison, tu te lèves. Donc, par exemple, si tu as 17 ans et que tu penses que si tu as fait une faute, tu dois aller en prison, tu te lèves. Si tu penses qu'on ne met pas les jeunes de 17 ans en prison, tu restes assis. Hein? C'est vrai pour tous ceux qui ont 18 ans et moins. Voilà. C'est tout, il n'y a que Chloé qui va en prison alors. La pauvre. Bon, qui a 17 ans? Levez la main ceux qui ont 17 ans. Prison. 16 ans. Il y en a qui ont 16 ans? Prison pour 16 ans. Est-ce que vous pensez... Quelqu'un a 15 ans? Personne a 15 ans? Ah. Alors, est-ce que tu penses que tu dois aller en prison? Quelqu'un Est-ce que quelqu'un a 12 ans? Non, personne. Ils sont là-bas. Et 13, 14? Quelqu'un a 13, 14? Quel âge? Tu penses que tu vas en prison ou pas? Oui, ça dépend pourquoi. Oui, on est d'accord. Mais potentiellement, tu peux aller en prison. Ouais, t'as raison. Il y a moins jeune que 14? 13? Tu penses que tu vas en prison ou pas? Ouais. C'est, donc 13 ans, c'est l'âge minimum en France pour aller en prison. Il y a des pays où c'est plus dur. Hein. La Suisse, c'est 10 ans. À partir de 10 ans, on peut aller en prison en Suisse. Ouais. Et en France, ouais, c'est à partir de 13 ans. Et en général, plus ils sont jeunes, et plus il y a de risques qu'on les revoie jusqu'à leur 18 ans. Qui c'est qui a 14 ans, c'est toi? Peu dur et voilà, vous allez peut-être être un peu choqué de ce que vous allez entendre, mais si chacun veut lire ce qu'il a sur son papier, ce ne sont que des exemples de personnes que j'ai réellement rencontrées en détention. Il n'y a pas de cas inventés ou de cas dont j'ai entendu parler mais que j'aurais pas vu. Ce sont que des jeunes avec qui j'ai eu des échanges. Voilà, donc allez-y, je vous écoute. On vous écoute. Vas-y, Chloé, si tu veux. Voilà. D'autres lecteurs ou lectrices? Alors ça, c'est une fille en plus. Voilà. Okay. Sachant qu'il y avait des victimes dans le bus. Vas-y. Okay. Vas-y. Allez-y. Voilà. On a voilà, bon, on a peut-être ouais. Voilà, donc j'ai 15 ans, hein, c'est ça, hein, et j'ai volé un Porsche Cayenne et je me suis battu sous l'emprise de la drogue. Le même qui donnait des noms d'alcool à la télé, comme quoi là, c'est pas sûr que la prison servit de leçon. Donc voilà un peu tous les cas qu'on peut rencontrer, même chez les jeunes. Et j'en reparlerai plus tard, mais c'est une belle école d'humilité. Et on apprend à être... à l'écoute de ces jeunes-là, quelle que soit la raison pour laquelle ils soient là. Voilà, donc, et moi dans tout ça. Voilà. Alors donc moi j'interviens en tant qu'aumônier, donc c'est un titre officiel qui est prévu dans le code pénal. Donc il y a plusieurs articles, je vous les ai pas tous sortis, je vous ai sorti les principaux. Donc, article R57.9.3, chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. À son arrivée dans l'établissement, elle était avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet. Et effectivement, en tout cas à l'EPM, ils ont un livret avec la photo de chaque aumônier et chacun se présente. Il y a un petit texte de présentation pour chacun des aumôniers. Donc ils sont réellement avertis qu'ils ont accès à l'aumônerie s'ils le souhaitent. Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés pour les différents cultes par des aumôniers agréés. Donc c'est là que j'interviens dans, officiellement dans ce contexte-là. Et donc il y en a un autre que je vous ai pas mis là parce qu'il est un peu long. Les personnes détenues peuvent s'entretenir à leur demande aussi souvent que nécessaire avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté. Ça veut dire que s'ils sont en quartier disciplinaire, on a aussi le droit de leur rendre visite. Quel que soit l'établissement. L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant, donc on est en confidence complète, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet. Alors nous, le parloir, à mes yeux, on l'utilise pas, mais dans des prisons où ils sont 3 ou 4 par cellule et qui veulent vraiment un moment d'intimité avec l'aumônier, on va privilégier l'échange au parloir. Soit dans la cellule de la personne détenue, et si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement. Il faut savoir que nous sommes les seuls à avoir accès aux cellules, en dehors des surveillants évidemment, et à l'EPM des éducateurs, mais les avocats ne peuvent pas y aller, la psychologue ne peut pas y aller, personne ne peut voir leurs conditions de vie en dehors de l'aumônier, c'est le seul en dehors de l'administration qui est autorisé à accéder aux cellules. Et dans certaines prisons, les aumôniers... peut-être les médecins, ouais. Okay. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire. C'est pas grave. Non, mais t'as raison. Merci. Voilà, bon, après, le reste est pas de l'article est pas important. Mais donc, voilà... Donc j'allais dire, dans certains établissements, l'aumônier a carrément la clé des cellules et donc peut aller comme il veut dans les cellules. Nous, on la veut pas, à mes yeux, parce que ce serait faire... c'est des gamins, donc on ouvre la porte, ils se barrent en courant, et... voilà. Donc que le surveillant court après le gamin dans les couloirs, ça me va, que moi j'ai à le faire, ça me va moins, quoi. Donc du coup, nous, on n'a pas les clés des cellules. Le premier directeur voulait pas, c'est au bon vouloir du directeur de l'établissement. Le premier directeur voulait pas, et après on nous l'a proposé, et on s'est rendu compte avec l'expérience que c'était très bien qu'on l'ait pas, mais on est dans un contexte assez particulier. Alors, ma vie en prison, donc je témoignais un peu de ce que moi je peux vivre à la prison. Alors déjà, on parlait tout à l'heure dans les articles de culte. Nous, on fait pas de culte à l'EPM, parce qu'en fait, c'est trop compliqué. On serait plus occupé à faire la police avec les jeunes, ou sinon il faudrait en avoir que 2 et c'est plus un culte, ça perd son intérêt. Donc du coup on a abandonné l'idée de culte et on fait que des visites individuelles, sauf cas exceptionnels sur lesquels je reviendrai après. Voilà. Quand on intervient dans les cellules, on est témoin de plein de choses. Déjà on est témoin des enfants qui des fois prennent 6 mois et ont 0 visite en 6 mois, c'est-à-dire pas de père, pas de mère, pas de frère, pas de sœur, pas d'oncle, pas de tante, pas d'amis, rien. En 6 mois, la seule visite qu'ils ont, c'est celle de l'aumônier, s'il la souhaite, hein, on s'impose pas. Mais donc faut savoir que s'ils en sont arrivés où ils en sont arrivés, il y a souvent des raisons derrière, quoi. C'est qu'il y a un déséquilibre. C'est simple. Moi, j'y vais donc depuis janvier 2008, donc ça fait plus de 10 ans. J'ai rencontré 2 jeunes qui avaient leurs 2 parents. Voilà. Ça vous explique un peu le contexte. Donc, ils ont des situations de vie qui sont terribles, quoi. Voilà. On apprend l'humilité aussi. Je me rappelle une fois, je discutais avec un jeune, il a été cité tout à l'heure, 15 ans, cambriolage pour multiples cambriolages. Il avait 15 ans. Et donc on discute, et il y a un jeune qui était là, qui avait 13, 14 ans, qui était déjà là pour la deuxième fois. Et il me disait, mais je comprends pas ce jeune, pourquoi il est là, il a déjà été en prison une fois, ça recommence. Il me dit, pourtant, il a le choix. Alors ça m'a un peu interpellé, j'étais un peu surpris de sa réflexion, qui était un petit peu juste quelque part. Mais et moi, plein d'assurance, je lui dis, oui, t'as raison, mais toi aussi, t'as le choix. Et là, il m'a dit, ah non, non, moi, j'ai pas le choix. Moi, si je vole pas le soir, je rentre pas à la maison. Je dors dehors, parce que mon père, il me laisse pas rentrer. Voilà. Et là, toute mon assurance, donc, belle école d'humilité. On apprend à être humble et... Et à pas se précipiter sur les jugements comme on peut le faire assez facilement. Voilà. J'ai appris à jouer au baby-foot aussi. Il y a des baby-foot dans les unités. Et en fait, c'est génial le baby-foot parce que c'est des moments conviviaux, on est plusieurs. C'est très facile de casser la glace. Et pour rentrer en contact avec les jeunes, c'est juste génial, quoi. Voilà. On apprend à relativiser les insultes, hein, celles que j'ai le plus entendues, donc on revient sur des choses choquantes, préparez-vous, mais c'est « nique ta mère l'aumônier », ça je l'ai entendu. Mais... Et en fait, c'est pas une insulte, c'est pas une insulte, c'est juste le moyen de faire le malin devant les autres, c'est tout. Et après, le même gamin, on va le voir en tête à tête dans la cellule, et tout va très bien, et en fait, il a juste fait le malin, parce que... Ça fait bien d'insulter les gens devant tout le monde. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Mais ça, on l'apprend avec le temps. Au début, ça fait drôle, et puis après, presque on ne l'entend plus, quoi. Mais bon, voilà. Une chose aussi que j'apprécie, c'est pas dans toutes les prisons comme ça, mais à mes yeux, on a cette chance-là, c'est de pouvoir travailler avec les autres aumôneries. Donc, il y a à mes yeux, il y a l'aumônerie protestante, il y a l'aumônerie catholique, et il y a l'aumônerie musulmane. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un gros avantage de pouvoir travailler avec l'aumônerie musulmane. À une époque, je ne sais pas, il y a un détenu qui était un influenceur, on va dire, et qui avait, je ne sais pas qui c'était, hein, mais qui avait décrété que tous ceux qui étaient musulmans dans la prison ne devaient pas ouvrir la porte aux aumôniers chrétiens. Donc, on voyait quasiment plus personne parce que c'est entre 90 et 95% des détenus. Donc, on voyait quasiment plus personne. Des fois, j'y allais et puis je rentrais sans avoir vu personne parce que je pouvais plus voir personne. Et je le sais parce que c'est un détenu musulman qui me l'a dit parce que lui avait décidé que il n'y avait personne qui décidait à sa place, et que lui, il aimait bien voir les aumôniers, parce que ça lui changeait de sa routine et de son quotidien. Et donc c'est lui qui me l'a dit, donc voilà, je le sais de source sûre. Et donc, pendant cette époque-là, on a organisé un atelier, en général, avec les autres aumôniers. Pendant les vacances scolaires, on organise des ateliers avec les jeunes. Donc c'est le moment où... On fait des travaux de groupe, mais là, il y a plusieurs surveillants, il y a des éducateurs, il y a tous les aumôniers qui sont là, donc c'est beaucoup plus facile à gérer un groupe que tout seul sur un moment de culte. Et donc, on a organisé un atelier avec une association qui s'appelle Coexister. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui prône le vivre ensemble entre les différentes religions, en gros. Et donc, on les avait invités à faire un exposé de leur association à la prison, et donc ils avaient projeté un petit film, et après on a pu donc échanger sur le vivre ensemble, et du fait qu'on travaillait main dans la main avec l'aumônier musulman était là, et c'est lui qui a entamé le débat sur le vivre ensemble avec les jeunes, et en fait il a fait tomber plein de barrières, et on a pu à nouveau entrer dans les cellules et aller à la rencontre des détenus, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou athées. Et ça a été vraiment une grosse reconnaissance auprès de l'aumônier musulman. Et donc voilà, on retombe sur l'histoire du jugement. On pourrait facilement porter un jugement sur les prisonniers. On pourrait aussi avoir des jugements sur ceux qui pensent pas comme nous, comme les musulmans. Mais en l'occurrence, j'étais bien content de pouvoir travailler avec un musulman qui m'a permis de réaccéder aux détenus. Voilà. Donc c'est le type de, d'activité qu'on peut aussi faire en, en prison. Et puis pour ceux qui connaissent Majestar, ils avaient créé une exposition sur le pardon. Et donc on avait pu faire rentrer cette exposition dans la prison. Donc on a eu deux fois l'expo sur le PM. Et ça a été vraiment des moments forts. Je me rappelle d'un jeune qui a pu témoigner qu'il avait pardonné à son père pour... Je ne me rappelle plus dans le détail, mais... Et voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment des moments privilégiés qu'on peut vivre sur l'établissement. Alors, pour conclure un peu tout ça, je voulais quand même qu'on ait un petit regard rapide sur la parole, parce que finalement... C'est quand même ça qui est important. Et donc, je me suis inspiré du passage de ce matin, de Michée 7. Merci Aurélien. Et c'est vrai que c'est très facile de se mettre en position de juge par rapport à ces jeunes, mais même dans les prisons pour adultes, c'est pareil. Hein, on voit les mêmes horreurs. Et c'est facile, surtout en tant que chrétien, de se poser là en tant que juge et de les juger. Et il y a un verset dans Jacques qui dit « Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain ?» Et le seul juge, en fait, c'est Dieu. Et laissons-le faire son travail. Et faisons le travail qu'il nous demande de faire plutôt que faire le sien. Et je pense que vous connaissez cette expression où on voit la paille dans l'œil du voisin et on voit pas la poutre dans le sien. Et je voulais justement revenir sur Michée, au chapitre 7, verset 2. « Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel. Plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. » Et donc, plus personne, ça englobe tout le monde, quoi. C'est même, nous y compris. Et on a beau voir la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, effectivement, on a tous notre poutre dans le nôtre. Et ce verset me fait aussi penser à Paul qui a dit ça aux Romains. « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Et d'ailleurs, Jésus, quand il est venu, il l'a dit lui-même, hein, en Marc 2, 17, Jésus leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et donc, s'il est venu pour les pécheurs, il est aussi venu pour les pécheurs qui sont en prison. Et on ne voit pas forcément mieux qu'eux. Et en fait, effectivement, c'est Jésus qui est la clé dans tout ça. Et je vais reprendre le verset qu'Aurélien a cité ce matin. « Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu m'entendra. » Et en fait, l'espérance en Dieu, c'est la seule et la véritable clé. Sinon, on tourne en rond. J'ai vu, la semaine dernière, j'ai rencontré une jeune fille. Elle en est à sa cinquième incarcération. Parce qu'elle n'a pas d'espérance. Parce qu'elle n'a pas cette espérance en l'Éternel. Et donc, elle tourne en rond, elle sort, elle rentre, elle sort, elle recommence, elle rentre, etc. Et donc là, elle en est à sa cinquième incarcération. Et tout au début que j'intervenais à mes yeux, il y a un jeune, une fois, il m'a dit, « Tu sais, ici, il n'y a pas d'espoir. Le seul espoir, c'est la télé. » Et si le seul espoir dans ta vie, c'est la télé, eh ben, bon courage. Et donc, la solution, elle est dans ce verset, tout simplement. Et c'est grâce à cette espérance en Dieu qu'on va pouvoir se reconstruire et que ces jeunes, comme nous-mêmes, ces jeunes et ces détenus, parce que moi je parle des jeunes parce que je suis avec les jeunes, mais c'est pas vrai pour dans toutes les prisons, mais cet espoir de pouvoir se reconstruire, il est vrai pour tous ces détenus. Malgré toutes les horreurs qu'ils ont pu éventuellement faire, la parole de Dieu, elle s'adresse aussi à eux. Voici, donc ça c'est l'Éternel qui parle à Israël, « Voici venu le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville, et voici ce jour-là, on repoussera tes frontières. » Non seulement on peut être reconstruit, mais en plus on peut grandir en Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle, et c'est ça la bonne nouvelle pour ces gens-là aussi. Et quand on reconstruit sa vie avec Dieu, d'ailleurs parlant de reconstruction, est-ce que vous devinez quel est le chant préféré des prisonniers? Et c'est valable à peu près dans toutes les prisons. Non. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Si vous allez à un culte en prison et que vous voulez laisser choisir un chant, c'est à coup sûr, c'est celui-là. À l'époque où j'allais, parce que j'ai découvert l'aumônerie quand il y avait la prison à Corba, et à l'époque, tous les dimanches, on chantait ce chant-là, parce que les détenus voulaient chanter ce chant-là, quoi. Donc quand on reconstruit sa vie avec Dieu, c'est là qu'on verra des prodiges. Michée 7, verset 15, « Comme au temps de jadis où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. » Il n'y a qu'en mettant notre espérance en Dieu qu'on peut arriver à cela et avoir une nouvelle vie. Alors qu'est-ce qui fait que moi ou vous, on est différent de tous ces détenus? La seule différence, c'est que nous, on est au bénéfice de l'amour et de la grâce de Dieu. Et si moi, j'y ai eu droit, eux aussi, ils y ont droit. Et on retrouve ça d'ailleurs, toujours dans Michée. Hein. « Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. » Et ce verset, il a été écrit pour moi, pour vous, bien entendu. Il a été aussi écrit pour toutes ces personnes qui sont en détention et qui ont volé, qui ont tué. Voilà. Et devant l'Éternel, il n'y a pas de niveau de péché. Et ce verset, il est aussi écrit pour moi, qui est menti, qui a été médisant et qui pense que mes petits péchés, c'est rien à côté de celui qui a tué quelqu'un. Mais ce verset, il s'adresse à nous deux au même titre. Quoi. Et pour faire suite à ce verset-là, vous vous rappelez tout à l'heure, on a cité Romains 3, 23, hein, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais après le verset 23, il y a le verset 24, tous ont péché, en effet, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Voilà. Donc je sais que ça peut être tentant de se poser en juge, mais les promesses de Dieu, elles sont pour tout le monde finalement. Et donc je vous invite, à, même si vous n'êtes pas aumônier, à pratiquer ce petit exercice. À chaque fois où vous êtes tenté de juger quelqu'un parce que vous l'aimez pas, parce qu'il a fait ceci de mal ou cela, plutôt que de le juger, priez pour lui et priez pour qu'il se laisse montrer, qu'il puisse donner la clé de son cœur à Dieu, tout simplement. Et vous saurez aussi que... Alors, j'ai oublié ma Bible, c'est malin. Et voilà, merci. Je voulais juste vous lire Matthieu 25... 35 à 36. Alors, c'est un peu petit, je vais mettre mes lunettes. Hein. Au début de mon ministère, j'avais pas besoin de lunettes. Voilà. 25. À partir du verset 35. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé, pardon. Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous encourager. J'ai rien d'exceptionnel à être aumônier. Je suis pas un super héros. J'ai péché comme tous ces détenus et je pêche encore. Mais je sais que eux comme moi, on est tous au bénéfice de l'amour et de la grâce de Dieu. Et donc voilà, vous avez tous l'occasion d'être aumôniers dans votre vie et de pouvoir prier prier pour vos ennemis. Voilà. Je voulais juste quelle heure il est ? Bon, je peux vous gratter encore 2-3 minutes. Je voulais juste vous lire 2-3 témoignages de détenus, c'est court. Hein. Condamné pour vol à main armée et trafic de stupéfiants, ce père de 4 enfants a retrouvé la foi de son enfance pendant sa détention. Par l'intermédiaire de l'aumônier protestant, puis de l'aumônier catholique, il ne sombre pas mais reprend espoir. Les visites qu'il reçoit de sa famille et des aumôniers lui permettent de se remettre à prier. Il devient même un témoin pour ses co-détenus, n'hésitant pas à leur transmettre l'espérance qui est en lui. Un autre témoignage. Je n'ai pas découvert la religion en prison, je suis chrétien par tradition familiale. J'ai eu des engagements dans le scoutisme, dans les aumôneries de lycée. Mais être placé dans 9 mètres carrés dans une situation d'isolement social, et même total, puisque j'ai vécu 3 ans dans des quartiers d'isolement, m'a permis de me retrouver seul face à moi-même. Le fait d'avoir été éduqué dans la religion a facilité cette forme d'entretien introspectif. Je ne conseille pas aux gens d'aller en prison pour approfondir leur foi, bien évidemment, mais ce lieu m'a permis de réfléchir en profondeur à ma relation à la religion. À un moment, le face à soi a ses limites. J'ai rencontré des aumôniers qui m'ont invité à aller encore plus au fond dans ma recherche spirituelle, ou même dans ma réflexion de simple humain. Nous avons créé Foi et Prison, le premier journal religieux dans les prisons françaises, intégralement rédigé et imprimé par les prisonniers. On le devait à une aumônerie extrêmement tonique qui avait obtenu l'adhésion du directeur de la prison. Et juste pour illustrer aussi la puissance de la parole de Dieu, un dernier témoignage, donc un aumônier à Corba, qui est une maison d'arrêt. C'est quoi une maison d'arrêt? Et donc, il y avait un mouvement dans la prison, donc il s'est retrouvé coincé entre 2 grilles avec un détenu, donc ils étaient juste tous les deux. Donc ils ont discuté, et puis il s'est présenté, il a dit qui il était, ce qu'il faisait. Et ce gars-là, il avait jamais entendu parler de Dieu, il était jamais allé dans une église, il avait jamais eu une lecture spirituelle, quelle qu'elle soit, entre les mains. Et c'était une grande découverte pour lui. Et il se trouve que cet aumônier, il avait un petit bleu dans la poche, vous savez, le petit Nouveau Testament des Gédéons, là. Et donc, il lui a donné. Et puis, après, il est rentré chez lui. Et puis, la fois suivante, quand il est retourné à la prison, il est allé voir ce détenu, évidemment, puisqu'il y avait un contact qui avait été fait. Et le détenu lui a dit, « Oh là, je viens de lire tout Matthieu, là, mais comment on ne peut pas croire en Dieu quand on a lu ça ?» Donc, voilà, Dieu travaille aussi derrière les barreaux. Et je voulais juste vous laisser... Ah oui, bon, ça c'est la lecture, voilà. J'avais oublié que j'avais mis dans le PowerPoint. Je voulais juste vous laisser avec quelques sujets de prière. Donc lundi qui arrive, là, lundi après-midi, on a une réunion de rentrée à la prison pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire sur l'année qui vient avec les différents aumôniers. Donc vous pouvez prier pour ça. Vous pouvez prier pour un nouvel aumônier, parce que normalement on est deux aumôniers, protestants sur l'établissement, et l'autre aumônier... Et qui est pasteur, a été nommé sur Angers. Donc il ne peut plus venir à l'EPM, donc je me retrouve tout seul pour le moment. De préférence, si ça pouvait être un aumônier femme, ça serait, on ne dit pas une aumônière, on dit un aumônier, même pour une femme, ça serait génial pour les filles. Voilà. À une époque, on avait un aumônier femme, et pour les filles, c'était vraiment bien. Donc je pense que ça peut être bien pour elles qu'elles aient un interlocuteur du même sexe. Vous pouvez aussi prier pour l'aumônerie régionale. Donc l'aumônerie est calquée sur les régions pénitentiaires. Donc il y a 5 régions pénitentiaires en France. Et donc l'aumônerie est gérée par région. Et donc sur chaque région, il y a une commission dont je fais partie. Donc je fais partie de la commission régionale. Et dans chaque région, il y a un aumônier régional qui gère un peu l'aumônerie sur la région. Et là, l'aumônier qu'on a régional qu'on a actuellement va finir au mois de décembre. Et donc, on cherche quelqu'un pour le remplacer. Et puis, vous pouvez prier pour le statut d'aumônier, parce qu'aujourd'hui, on est ce qu'on appelle des aumôniers laïcs, c'est-à-dire c'est pas notre métier, on n'est pas rémunéré pour être aumônier, donc on est là en tant que bénévole, et c'est très bien comme ça. Sauf que il y a une grosse discussion au niveau de l'administration pénitentiaire pour changer ce statut-là, et que ça devienne un statut où on serait salarié de l'administration pénitentiaire, et là, au niveau des libertés, ça va devenir très compliqué. Voilà. Donc c'est en discussion depuis un petit moment, hein, ça fait 2-3 ans déjà. Donc ça n'a pas bougé pour le moment et c'est très bien comme ça. Mais voilà, il faut que ça reste un point de prière pour l'aumônerie en général, parce que si on nous change notre statut, on va perdre en liberté et puis on va être tenu à des résultats et des comptes rendus et tout ça, et toute la charge administrative qui va avec. Et évidemment, on n'en veut pas, quoi. Voilà, donc vous pouvez aussi prier pour ça. Voilà. Donc je suis désolé, il est un peu plus tard que midi, donc vous m'excuserez auprès de vos invités, pour ceux qui en ont. Mais en tout cas, ça a été un réel plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Je vous remercie pour ce temps d'écoute un peu long. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et j'avais prévu un temps de questions-réponses qu'il n'y aura pas, mais je vais pas partir comme un voleur, sinon je vais finir en prison. Donc vous pouvez venir me voir après le culte et me poser toutes les questions du monde. Voilà. Encore un grand merci à vous tous. À vous toutes et à vous tous. Merci, Aurélien.
On avait prévu un dernier chant, mais je ne sais pas si à quel point il est tard et que vous avez... Non, donc on va juste prier, on va clore. Ouais, Père, merci pour ces rappels que... Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Et qu'il n'y ait jamais trop tard pour nous retourner vers toi. On veut se rappeler de ce brigand sur la croix qui, devant de sa mort, va dire « Mais toi, tu es juste, toi, tu n'as pas commis de péché, toi, tu es le roi. » On veut se rappeler cette réponse de Jésus qui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et on veut se rappeler que cette promesse, elle est pour tout le monde. Et qu'à nous de la rappeler aux gens et de leur montrer que là où il y a le désespoir, c'est que dans le désespoir naît l'espoir et que cet espoir peut se trouver en toi, Seigneur. Amen. Bonne semaine à tous.